Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre.
Bonjour, vous êtes sur CFM et vous écoutez Les Croissants Décroissants, un magazine d'écologie sans chichi.
La terre, on a un seul monde pour nos enfants, assurément.
Pour vos avis, commentaires, suggestions, vous pouvez toujours écrire à lescroissantsdécroissants@gmail.com.
Bonjour Monsieur Croissant Décroissant, nous aimons beaucoup votre émission sans chichi. Nous l'écoutons le soir pendant le dîner. Nous aimerions avoir une émission sur la surexploitation des ressources en matériaux. Gros bisous.
Chère auditrice, merci pour cette question et l'intérêt que vous portez à l'émission en famille. Nous allons donc nous intéresser aujourd'hui aux ressources en matériaux. Pour commencer, des matériaux, d'après le dictionnaire, c'est la matière utilisée pour réaliser un objet au sens large. Du bois, du sable, des métaux, des terres rares, mais aussi de l'eau et surtout le pétrole et le gaz. Chère auditrice, vous parlez de la raréfaction. Mais qu'est-ce que la raréfaction ? C'est parce que nous consommons plus vite que le taux de renouvellement de ces matières, par exemple le pétrole. L'atmosphère actuelle est celle d'il y a quelques millions d'années, le temps que le cycle de la vie enfouisse sous terre le carbone fossile, sous forme de pétrole, de calcaire, de gaz et ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous utilisons ce pétrole et ce gaz. En une centaine d'années, nous avons consommé ce qui avait été produit pendant des millions d'années. Alors justement, commençons par le pétrole. Depuis 50 ans, on nous parle du pic de pétrole et il est sans cesse reporté. Enfin, pas exactement, car le pic de pétrole conventionnel est autour des années 2000. Depuis, il y a de moins en moins de pétrole conventionnel qui est extrait. Par contre, qui nous permet d'avoir toujours plus de pétrole, tout au moins tout autant, c'est le pétrole non conventionnel, c'est-à-dire le pétrole offshore profond, pris en mer très profonde, le pétrole bitumineux et le gaz de schiste. Ceci absorbe les pertes du pétrole conventionnel. Quant au gaz, on est actuellement sur un palier plutôt maximal pour encore quelques années. On parle de taux de retour énergétique par rapport à ce pétrole. Non seulement il y en a de moins en moins, mais il est aussi de plus en plus difficile d'aller le chercher. Jusqu'à 1940, grosso modo, on peut considérer qu'avec un baril de pétrole, on arrivait à sortir plus d'une centaine de barils de pétrole. Jusqu'en 1970, on estime que le taux de retour énergétique est plutôt de 20 et aujourd'hui plutôt autour de 8. On est donc passé d'une centaine à 8 barils de pétrole extraits en utilisant l'énergie d'un baril de pétrole. Quant au gaz de schiste ou pétrole bitumineux, eh bien c'est de l'ordre plutôt de 2 à 16 voire même 1,5. C'est-à-dire qu'on utilise un baril de pétrole pour extraire 1,5 baril de pétrole. Le rendement est finalement assez faible. Certaines personnes nous parlent de croissance verte. Alors, intéressons-nous maintenant aux ressources de cette fameuse croissance verte. Ces ressources qui seront utilisées dans l'électromobilité, pour le photovoltaïque, pour l'éolien et toutes les infrastructures qui vont avec. Nous allons bien entendu parler du lithium des batteries et des métaux, principalement. Commençons par le lithium. Le lithium provoque une première chose, la raréfaction de l'eau, au détriment d'une agriculture vivrière dans les pays où il est extrait, car pour le produire, il faut beaucoup d'eau. L'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, estime que la demande en lithium va sextupler d'ici à 2030. On estime à peu près 90 millions de tonnes la quantité de lithium disponible sur Terre. Enfin, disponible pas exactement, car seulement un quart est accessible. Un quart de 90 millions, cela permet d'alimenter à peu près 2 milliards de véhicules personnels, car chacun embarque à peu près 8 kg de lithium dans ses batteries. Mais ça, c'est sans compter les autres usages pour nos téléphones, pour nos ordinateurs ou d'autres outils électroportatifs, ou encore dans les maisons. La production de 2021 a été de 105 000 tonnes. Cette production vient pour 52% de gisements de roches qui sont en Australie, 25% sont originaires du Chili, produits à partir de saumure. La Chine, elle, produit 13% du lithium mondial depuis du minerai ou de la saumure. et près de 6% sont extraits de saumure en Argentine. On arrive donc à un total de 95% qui est uniquement basé sur ces quelques pays pour lesquels nous devenons dépendants. Quant aux réserves, elles sont majoritairement au Chili. Pour la fameuse croissance verte, on a également besoin de métaux. On note malheureusement une décroissance importante des taux présents dans les filons exploités ou ceux qui sont explorés. C'est-à-dire que quand on prend une certaine quantité de roche dans une mine, eh bien on va en extraire une certaine quantité du métal utile. Pour le cuivre, au milieu du 19e siècle, on extrayait des minerais qui contenaient 12% de cuivre en Angleterre et 25% qui est vraiment le maximum sur Terre en Australie. Aujourd'hui, quand on extrait une tonne de minerais, on en extrait 10 kg de cuivre, soit 1%. On est donc passé de 25% de teneur de cuivre à 1%, ce qui est ridiculement faible. Quant au fer, par exemple aux États-Unis, on extrayait en 1920 des minerais avec des taux d'à peu près 40%. Aujourd'hui, ils sont de 20%. Le nickel, même chose. On est passé en 100 ans de 10% à 2% de taux de nickel dans les roches exploitées. Et pour l'or, on est passé de 20 à 5%. Alors pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas des roches avec une meilleure teneur? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y en a plus. Tous ces métaux, on en utilise de plus en plus. Il faut donc de plus en plus de minerais bruts, puisqu'on a une demande qui s'accroît. Et en plus, dans ces minerais, il y en a de moins en moins. Donc cela multiplie encore plus la quantité de minerais bruts extraits. Et il faut donc de plus en plus d'énergie. Et d'autre part, comme les roches contiennent de moins en moins du métal intéressant, eh bien on a de plus en plus de déchets et donc de pollution qui sont associés. Alors, il existe un Eldorado. Enfin, c'est un Eldorado chimérique, les nodules métalliques. On lit de temps en temps des articles là-dessus. Les nodules métalliques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des concrétions minérales qui sont sur le lit océanique. Il y a au départ un élément sur lequel viennent s'agglomérer d'autres éléments, et notamment des microparticules de métaux. Cela forme au fur et à mesure des boules qui contiennent des métaux que l'on pourrait extraire. Ces boules, eh bien, elles s'accroissent d'un centimètre par million d'années. C'est donc un processus extrêmement long qui permet d'obtenir ces nodules métalliques. Alors, le seul problème, c'est que d'une part, la nature prend beaucoup de temps à les fabriquer, donc c'est non renouvelable, et ces nodules métalliques se trouvent sur les lits océaniques, c'est-à-dire à peu près à 5000 mètres sous les eaux, où il y a une pression d'à peu près 500 bars. Ce sont plutôt des zones cycloniques, donc il est difficile d'y travailler, il est difficile de les remonter, et comme ces nodules métalliques ne sont pas purs, et qu'en plus, quand on l'extrait, on extrait également tout l'environnement, eh bien il faut rebalancer ces déchets à l'eau. Autant de sources de complications et de pollution en perspective. Mais ils sont extraordinaires. Enfin, ça, c'est ce qu'on lit. En réalité, quand on regarde les analyses scientifiques, eh bien, on voit qu'au mieux, ils contiennent 30% de manganèse, 1,5% de nickel, 1% de cuivre, 0,2% de cobalt et 6% de fer. Et quand ils l'alluminent, ils en contiennent 3%. Cela est à comparer avec ce que les mines aujourd'hui nous produisent. Par exemple, dans la bauxite, on peut s'attendre à 50% d'alumine, alors que ces fameux nodules métalliques en contiennent 3%. Dans une mine, on peut s'attendre à 10-20% de fer, alors que ici, le nodule métallique en contient 6% grand maximum. L'autre point, c'est que ces nodules métalliques ont des propriétés chimiques qui sont différentes de ce que l'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui. Il faut donc non seulement aller chercher sous 5000 mètres d'eau ces nodules métalliques, les trier et ainsi de suite, mais en plus, il faut inventer de nouveaux process pour les transformer dans le métal final qui nous intéresse. Et d'autre part, on a vu, ce sont dans des zones éloignées des côtes, donc il faut les transporter. Autant de complications, autant de pollution, autant d'infaisabilité. L'autre source qui est utilisée dans tous les scénarios de croissance verte, ce sont les terres rares. Des terres rares notamment pour fabriquer les aimants dans les moteurs électriques. Ces terres portent assez mal leur nom car souvent ce sont plutôt des métaux. Et en plus, ils ne sont pas particulièrement rares, c'est juste qu'ils sont dilués dans la croûte terrestre. En quelque sorte, il faut à peu près 8 tonnes de matériaux pour y trouver quelques kilos du précieux métal. Il reste donc dans la masse de ce qu'on a extrait une quantité importante de métaux lourds et en plus, pour les traiter, eh bien, on va utiliser des produits chimiques. On a donc sorti de terre des métaux lourds, on y ajoute des produits chimiques par ravinement, et bien tout cela se retrouve dans les rivières. C'est bien pour ça que la plupart des terres rares sont aujourd'hui produites en Chine où l'enjeu environnemental n'est pas tant considéré que dans nos pays. Néanmoins, nos pays, même si on se refuse en quelque sorte à extraire des terres rares de notre sol, eh bien nous ne refusons pas du tout l'utilisation de ces terres rares. Écoutez les croissants des croissants, aujourd'hui nous parlons des ressources de matériaux en tension, voire qui se raréfient drastiquement. Pour continuer, nous allons nous intéresser au bois. Il se trouve qu'à peu près un tiers de la surface de la Terre est couverte par des forêts, soit 4 milliards d'hectares. Ou, si on rapporte à chaque humain sur Terre, à peu près un demi-hectare qui serait dédié à chacun d'entre nous. Pour se chauffer, pour construire et également pour absorber le CO2 que nous émettons. Sans oublier pour héberger toute la biodiversité qui nous rend d'énormes services. Un quart seulement des forêts sur Terre sont des forêts primaires. Le reste sont des forêts régénérées. Les forêts plantées ne représentent finalement que 3% des surfaces. La moitié de toutes les forêts sur Terre sont dans 5 pays. La Russie, le Brésil, le Canada, les USA et la Chine. Nous sommes donc dépendants de ces pays pour l'utilisation du bois, notamment en termes de compensation. On note une baisse de la déforestation, certes, mais également une baisse de son expansion entre 1900 et 2020, ce qui se concrétise par une stagnation des pertes, à peu près 5 millions d'hectares par an selon la FAO. Le bois est donc aujourd'hui une ressource qui disparaît petit à petit. Il y a d'énormes enjeux et également d'énormes questions sur le fait, par exemple, que l'Amazonie puisse être dans un cycle de déconstruction totale. Nous avons utilisé le bois pendant longtemps pour le chauffage et la construction. Aujourd'hui, la construction se fait avec d'autres matériaux, notamment le béton. Le béton est fait à partir de sable. Nous en utilisons 50 milliards de tonnes par an. C'est l'équivalent d'un mur de 27 mètres de haut et de 27 mètres de large qui ferait le tour de la Terre. Ça, c'est ce qu'on utilise par an. C'est également une moyenne de 18 kg par personne et par jour qui sont utilisés. Le sable, ce n'est pas uniquement utilisé dans le béton. En fait, tout ce qui nous entoure contient plus ou moins du sable. Le verre, c'est du sable. Certains plastiques contiennent du sable pour le rigidifier. Les pneus contiennent du sable. Les filtres pour l'eau. Et on en a parlé, le béton. En termes d'ordre de grandeur, pour construire un hôpital, ce sont quelques 3000 tonnes de sable qui sont utilisées. Pour construire une autoroute, c'est 30 000 tonnes de sable, soit 10 fois plus, qui sont utilisées chaque kilomètre. Il va donc peut-être falloir faire des choix entre l'autoroute et l'hôpital. Mon choix personnel serait plutôt de privilégier les hôpitaux aux autoroutes. Les quantités de sable que nous utilisons sont monstrueuses. La Chine, aujourd'hui, consomme autant de sable en quelques années que les USA ont pu en utiliser pendant l'ensemble du XXe siècle. Des projets d'artificialisation, comme les îles à Dubaï ou à Singapour, sont de très gros consommateurs. Et ce qui est un petit peu paradoxal, c'est par exemple à Dubaï, on se retrouve à côté du désert. Mais le sable du désert ne convient pas. Il est trop fin et trop lisse, il ne tiendrait pas. On creuse donc les montagnes, on les concasse et on drague les rivières. Même si aujourd'hui c'est interdit en France, cela reste une pratique assez importante. En draguant les rivières, eh bien, on vient assécher les nappes d'eau. Le sable, on le prend aussi sous la mer par aspiration. Cela déstabilise bien sûr les écosystèmes puisqu'on ne va pas absorber que le sable, on va aussi détruire l'écosystème qui y est lié. Les marées et le vent vont essayer de combler ce vide. Le sable des plages part donc en haute mer, on a donc des plages qui vont disparaître. Les plages ou les îles qui disparaissent, ce sont autant d'entrées maritimes qui se salinisent. Et les nappes phréatiques qui sont sous terre, eh bien, vont se saliniser aussi et cela rend les sols impropres aux cultures. D'autre part, les infrastructures qui sont proches de la mer sont ainsi déstabilisées. Le sable, c'est également un matériau qui est non renouvelable. Cela prend des milliers d'années d'abrasion pour avoir ces fameux grains. Rien que ça, des milliers d'années. Alors, on parle de sable, mais on pourrait aussi parler des cailloux, c'est le même sujet. Une autre ressource que l'on a, c'est l'eau. Elle est utilisée certes pour boire, mais surtout pour plein d'autres usages. De l'eau pour la construction, à l'eau pour nettoyer les plaques de silicium dans l'industrie photovoltaïque ou l'électronique. Un ordinateur, par exemple, c'est 20 000 litres d'eau qui sont utilisés. De l'eau, la plupart du temps, très pure, qu'il faut aller chercher très loin, au détriment des ressources locales en eau potable. L'eau douce sur Terre, c'est quelque chose qui est relativement rare. C'est 3% de l'eau totale disponible sur Terre. 2/3 de cette eau douce est dans les glaciers. On ne retrouve 1/4 dans les eaux souterraines. Et seulement 0,4% de cette eau est en surface. L'eau douce réellement disponible, c'est 0,7% de la quantité totale d'eau sur Terre. Aujourd'hui, nous avons des glaciers qui forment une sorte de tampon entre été et hiver, ce qui nous permet d'avoir de l'eau dans nos fleuves. Cet été, la France a demandé à la Suisse d'ouvrir un peu plus les vannes du Rhône afin d'alimenter les différents usages le long du Rhône, comme l'eau potable, mais également l'irrigation et le refroidissement des centrales le long de ce fleuve. Alors, chère auditrice, vous l'avez peut-être deviné, il y a un mot derrière tout ça. Cela s'appelle la démesure. Qu'est-ce que l'homme a produit jusqu'à aujourd'hui ? En résumé, on dirait des déchets. La quantité de plastique que nous avons produit, en termes de masse, c'est 2 fois la masse de tous les animaux réunis sur Terre. Les infrastructures que nous avons fabriquées, les maisons, les routes, cela pèse plus que toute la biomasse, c'est-à-dire tout le vivant, des champignons aux animaux, en passant par les arbres, sur Terre. Le poids des animaux sur Terre, c'est à peu près 4 milliards de tonnes. Quant au poids de plastique que nous avons produit jusqu'à ce jour, c'est 8 milliards de tonnes. Le poids de la biomasse du vivant sur Terre, c'est à peu près 900 milliards de tonnes. Le poids de nos infrastructures, c'est 1200 milliards de tonnes. Parmi ceux-ci, on compte le béton, 550 milliards de tonnes, les briques, 100 milliards de tonnes, les agrégats divers et variés, c'est 400 milliards de tonnes, les métaux, 40 milliards de tonnes, l'asphalte, c'est 65 milliards de tonnes, et encore une fois, le plastique, 8 milliards de tonnes. Alors, au-delà du fait que ces matériaux viennent petit à disparaître, puisqu'ils sont non renouvelables, en tout cas pas assez vite pour l'usage que l'on en fait, peut-être peut-on également se poser la question sur la finalité. Quand bien même il n'y aurait pas de limite, souhaiterait-on vraiment couvrir notre terre de déchets et rendre la terre impropre à la vie ? Un exemple parmi d'autres, si chez nous les études montrent qu'à peu près 100% des fleuves sont pollués au plastique, au Guatemala, le fleuve Rio Montagua, de plus de 400 km de long, est recouvert de plastique. Quand on regarde une photo, eh bien, les berges sont en plastique, le fleuve, on ne voit pas l'eau, elle est sous le plastique. Est-ce vraiment cela que l'on souhaite ? Alors, on a parlé des ressources de matériaux plutôt minières et autres. La question était sur les matériaux. Mais il y a également d'autres ressources que nous exploitons. La première, c'est la biodiversité, celle qui nous permet de manger aujourd'hui. Et également le climat qui était plutôt stable jusqu'à maintenant et qui est en train de devenir relativement instable, qui complique quelque peu notre capacité à vivre. Il y a une autre ressource que l'on oublie finalement assez souvent, même si elle nous concerne, c'est l'humain. Car quand il y a trop de contraintes qui sont créées à cause du stress, des tensions sociales, eh bien, nous ne pouvons pas continuer à travailler sereinement. Nous n'avons que quelques heures par jour d'ailleurs pour travailler. La journée n'est pas extensible. On ne peut pas augmenter le travail des humains indéfiniment. En termes de conclusion, et pour revenir sur le climat, eh bien, l'ONU, par sa branche climat, a publié un rapport mi-novembre sur les trajectoires carbone à l'horizon 2030, c'est-à-dire dans 6 ans. L'objectif de Paris impliquerait une diminution de 43% des émissions de gaz à effet de serre. Les engagements actuels mènent à une baisse de seulement 2%. C'est une belle démonstration que la politique actuelle n'a toujours pas compris quels étaient les enjeux, ni d'ailleurs les solutions opportunes. Alors si on espère en 6 ans rattraper tout le retard et s'appuyer sur les technologies vertes comme la voiture électrique individuelle, le photovoltaïque, l'éolien, la plantation d'arbres, alors que toutes ces ressources sont tendues, voire de plus en plus rares, c'est peut-être le meilleur moyen de perdre encore plus de temps et de laisser à nos enfants une planète difficilement habitable, en ayant en plus gaspillé toutes les ressources qui auraient pu leur être utiles. On veut du green. Rubrique greenwashing. Je suis désolé, mais on va encore revenir sur Total Energy. Mais c'est le fruit du hasard. Certainement en compensation de leur empreinte environnementale inconsidérée, Total Energy publie sur son site quelques articles avec des conseils de gestes anecdotiques à l'intention du bon citoyen écolo. Parmi ces articles, il y en a un sur 5 manières de confectionner des allume-feu écologiques. Alors le site rappelle, les allume-feu sont souvent composés de matières chimiques dérivées pour la plupart du pétrole, fabriquées par Total Energy. Il existe toutefois des allume-feu plus écologiques, souvent composés de résidus de bois et d'huile végétale. Or, il s'agit souvent d'huile de palme, dont l'exploitation participe à la déforestation dans certaines régions du monde. C'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité. Il a fallu tordre le bras via le Conseil d'État en 2021 pour que 6 mois après, le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanet, s'engage à stopper la production de carburant à partir d'huile de palme. D'autant plus que l'article sur les allume-feu date de 2020, c'est-à-dire antérieur à cette décision. En allant un petit peu plus loin, on voit que la méthode 3 est ainsi décrite. Avec des rouleaux de papier toilette. Fermez l'une des extrémités du rouleau de papier toilette, par exemple avec des agrafes, et remplissez ensuite ce récipient de matériaux combustibles, entre parenthèses, sur peluche de sèche-linge, etc. Sauf que la plupart de nos vêtements sont en tissu synthétique, en plastique. Mais visiblement, ça ne pose pas de problème chez Total de brûler du plastique, à croire que ce soit une pratique usuelle au sein de l'entreprise. Mais de qui se moque-t-on ?
N'écoutons pas les Khmer verts et les prédicateurs à lampe à huile.
Salut le monde, le Figaro.
Ouais. Salut l'équipe, salut le trou.
Direct matin, direct midi, direct 4h, direct 5h, direct soirée, direct poubelle.
Et je veux redire que cela relève de l'éco-terrorisme.
Dans les infos locales, je vous recommande de consulter le site de Démosphère en Aveyron. C'est un agenda pour retrouver les événements organisés sur des thématiques militantes et culturelles pour tout l'Aveyron. C'était Les Croissants des Croissants, un magazine d'écologie sans chichi. Alors je souhaite un bon appétit à notre auditrice qui a initié le thème de cette émission. Et comme elle, vous pouvez écrire à lescroissantsdescroissants@gmail.com pour suggérer d'autres thématiques. À la prochaine!
Les faucheurs volontaires emploient les moyens de la désobéissance civique non violente en agissant à visage découvert.
La banderole de tête de cette manifestation, ça va être « Change le système, pas le climat ».
La vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
L'eau, la terre, le jour du dépassement, la Terre, -2, pas de déploiement.